chapitre 51. Les immortels étaient les parties d'échecs les plus célèbres jamais jouées, souvent appelées les parties du siècle. De véritables œuvres d'art de réflexion et de logique qui laissaient éternellement leur empreinte, qui ne mouraient pas. Garry Kasparov possédait son immortel. L'immortel de Kasparov, joué contre le bulgare Topalov en 1999, est considéré par certains comme l'un des plus beaux duels de tous les temps. Après l'incroyable sacrifice d'une tour, au 24e mouvement, le Russe développe une combinaison de 15 coups qui entraîne sa victoire. Voilà l'énigme qu'Andy Janson avait léguée à Vic, un an et demi plus tôt, dans un bureau de la brigade criminelle de Lyon. Sous quel angle aborder le problème de Janson? Fallait-il se focaliser sur la date de la partie? L'endroit? Le contexte? Le nombre de coups? 44, 2 fois 22? Janson était obsédé par le chiffre 2. 2 et ses multiples couvraient les murs de sa chambre. 512, le nombre de cheveux, valait 2 multiplié par lui-même 8 fois d'affilée. Fallait-il aborder le problème d'un point de vue mathématique? Ou alors la réponse se trouvait-elle dans la partie elle-même? Mais la réponse à quelle question? Fallait-il regarder ailleurs, hors du cadre, hors de l'échiquier, comme semblait l'indiquer l'indice « misdirection » ce terme utilisé en grande illusion, glissé par Janson à la fin de l'interrogatoire? À l'époque, Janson lui avait proposé une partie d'échecs dans la partie d'échecs. Un casse-tête que personne n'avait réussi à résoudre. En ce jour de Noël, Vic s'était réveillé avec l'impression d'avoir avalé du plâtre. Les gorgées de gin avaient vite pris le dessus sur ses réflexions de la nuit, et il avait sombré au bout d'une demi-heure, ivre, crevé, presque incapable de grimper les 3 échelons qui menaient à son lit au matelas premier prix et bourré d'acariens, pour se réveiller à plus de midi. Presque 10 heures de sommeil, comme s'il avait rattrapé en une fois son retard du mois. Après avoir déjeuné au chinois du centre commercial, bondé en ce jour spécial, on était loin de la dinde traditionnelle, il regagna sa chambre et, sobre cette fois, se mit à lire le rapport de Colin Bercheron. Des faits précis. Rien ne manquait. Le flic du Nord n'avait pas pris la chose à la légère. Cambriolage, 2 mois plus tôt, pas d'effraction. Vol de quelques objets, dont des éléments de salle de bain et des livres de Léane Morgan. Insensé. Ensuite, voilà pile une semaine, quelqu'un, le parasite, sans doute le cambrioleur déjà venu, entre chez les Morgan la nuit, déclenche l'alarme, se fait passer pour le mari auprès d'un agent de surveillance. Il laisse ses empreintes partout, sur la bouteille de whisky, le réfrigérateur, les meubles. Il n'est pas fiché. Il fait disparaître la documentation et tout ce qui tourne autour des recherches concernant Sarah Morgan. À 19h ce même jour, Julianne Morgan est retrouvée inconsciente sur la digue. Il a visiblement été frappé, étranglé, après avoir été enfermé dans le coffre de sa propre voiture et transporté là pour que, selon toute vraisemblance, on le retrouve. Il est emmené à l'hôpital, où il se réveille, privé de sa mémoire. Vic poussa les pièces sur l'échiquier. Défense Pirc. Les Noirs laissent les Blancs construire un fort centre de pions pour pouvoir ensuite les attaquer à distance. Après 5 coups, il revint au dossier. L'affaire sur la côte du Nord portait elle aussi son lot de mystères, surtout quand on y ajoutait les découvertes dans le coffre du 4x4. Vivante, écrit avec le sang du mari, et surtout le bonnet, découvert sous le tapis dont Vic avait la photo sous les yeux. Il sortit un cliché du dossier Janson, celui de Sarah Morgan, le soir de sa disparition. Aucun doute, il s'agissait du même bonnet. Il observa ce visage lumineux avec tristesse. Ce portrait tiré en selfie, juste avant que Sarah n'aille courir cet hiver 2014. Elle irradiait de lumière sur le papier glacé. Une belle jeune femme qui aurait dû avoir l'avenir devant elle. Il l'avait découverte privée de ses yeux et de son visage. Le crâne défoncé au fond du coffre de Delpierre, plus vieille de 4 ans. 4 ans de son existence à vivre l'enfer, pour finalement être massacré à coups de marteau dans un sous-sol au fin fond du Vercors. Vic se précipita vers la fenêtre et l'ouvrit en grand, au bord de la nausée. Quelqu'un allait devoir payer. Il le fallait. Il attendit d'aller un peu mieux et retourna au milieu de la chambre, juste 2 pas à faire. Si Janson n'avait pas kidnappé Sarah, qui l'avait fait? Pourquoi diable le tueur en série s'était-il approprié la victime de Félix Delpierre? Par pur narcissisme? Vic y croyait de moins en moins, il sentait une raison plus profonde, plus complexe. Sinon Janson ne lui aurait pas laissé cette énigme à résoudre. Le flic fouilla dans leur propre dossier et en tira le cliché de la chose de Delpierre, ce mannequin de peau auquel la pauvre Sarah avait contribué avec son visage, ses yeux et ses mains. Il le posa entre la Sarah en vie avec son bonnet et la Sarah morte au fond du coffre. Quelles étaient les autres victimes qui composaient la chose? Où avait-elle été enlevée? Et Apolline, là-dedans? Qu'est-ce que Delpierre avait fait d'elle? Il considéra encore la chose, puis un détail l'interpella. Delpierre avait tué à 8 reprises si on omettait Apolline. Janson aussi avait frappé à 8 reprises. En s'octroyant le meurtre de Sarah Morgan, le voyageur en était arrivé à 9. Une de plus que Delpierre. Dame en H6, fou en B7. Vic envoyait les 2 armées au front sur l'échiquier. 2 adversaires qui se livraient une lutte intellectuelle de haut vol. Un défi à mort, à coups de neurones et d'adrénaline, pour un enjeu qui allait au-delà du simple cadre du monde échiquéen. Une idée fusa. Et s'il existait une connexion entre les 2 tueurs? Et si, d'une façon ou d'une autre, chacun d'entre eux avait été au courant des activités de l'autre? Et s'il s'était livré une espèce de compétition, coup après coup, comme sur l'échiquier? Qui avait en définitive envoyé la mèche de cheveux au Morgan? Delpierre ou Janson? Vic songea alors à Moriarty. Un grain de sable dans sa réflexion. Comment ce 3e homme pouvait-il s'inclure dans le schéma qu'il imaginait? Une fraction de seconde, il se dit que Janson pouvait être Moriarty, mais impossible. Il le voyait mal avec un téléphone dans sa prison ultra-surveillée, en train d'envoyer des SMS à Delpierre ou de louer le chalet de la chapelle en Vercors 10 jours plus tôt. Quelque chose clochait dans son modèle. L'impression d'être à l'ouest, mais d'un autre côté, pas loin de la vérité. Car cette idée de compétition entre 2 tueurs lui plaisait. Il se concentra sur le profil de chaque homme, très différent. Hormis pour Apolline, Delpierre n'avait à l'évidence pas agi seul. Il était davantage un exécuteur qui travaillait de concert avec Moriarty, chargé d'éliminer et de se débarrasser des corps. Un malade qui fantasmait sur les morts. Janson, lui, était un vrai solitaire, du kidnapping à l'enterrement de ses victimes. L'un renfermé, mutique, sédentaire, niché dans l'ombre des montagnes. L'autre, intelligent, beau parleur, joueur, obsédé par les chiffres, en perpétuel mouvement avec son camping-car sur les routes de France. Les 2 enterraient les corps. Janson étranglé ou frappé au crâne. Pour Delpierre, il ne savait pas vraiment, puisque les victimes avaient la tête recouverte d'un sac plastique. Certes, Sarah Morgan avait été frappée avec un marteau, mais rien ne disait que Delpierre avait procédé de la même façon pour les autres. Il manipula les pièces d'échecs, fiévreux, jusqu'à en arriver au plus beau coup de la partie, inattendu, destructeur, celui qui avait fait basculer le duel et entraîné la mort du camp noir. Le sacrifice de la tour blanche de Kasparov en D6. Mémorable. Il resta figé sur cette position pour la énième fois et observa l'échiquier sous tous les angles. Janson lui avait-il livré cette énigme pour ce seul coup magistral? La clé pouvait-elle se cacher derrière ce mouvement de la pièce blanche? Vic s'était déjà posé la question des heures durant, bien sûr, sans rien en tirer. Était-il possible que les routes de ces deux hommes se soient déjà croisées, qu'ils aient collaboré, que... Il se mit brusquement debout et encore une fois il s'explosa le crâne contre la barre métallique du lit. Il se tordit en deux, les mains sur la tête, des jurons plein la bouche, et il maudissait cette chambre, sa situation, sa misérable vie. Il calma la douleur avec une généreuse gorgée de gin, soignait le mal par le mal, et se revit fouiller les poubelles de Delpierre. Le papier à lettres, les enveloppes, le parfum féminin jeté parmi les ordures. Il se rappela alors où il avait déjà vu le numéro 27654 noté sur la couverture du carnet. C'était le numéro d'écrou d'Andy Janson. Les deux tueurs communiquaient.